BFM Business, BFM Crypto, les pros.
BFM Crypto, les pros, comme tous les vendredis, avec nos trois invités. Dans un instant, on sera avec Valentin Nico, qui nous attend depuis Bourse Direct. Et puis en plateau, deux invités, Alexandre Stachenko, cofondateur de Blockchain Partner. Ça va être dur. Hein. Bonjour, et puis également, bonjour Alexandre, et puis également Owen Simonin qui nous accompagne, cofondateur de la chaîne YouTube Asher et CEO de Meria. Bonjour Owen.
Bonjour.
Merci de prendre quelques minutes pour nous décrypter un petit peu la situation. On verra dans un instant, on fera un tour d'horizon hein, de l'actualité crypto comme tous les jours sur BFM Business aux alentours de 16h35. Mais avant, donc c'est Valentin Nico qui nous attend depuis Bourse Direct avec, contrairement à Wall Street, Valentin, un Bitcoin là qui consolide un petit peu, mais qui maintient la barre des 29 000 dollars.
Oui, en effet. Après, bon, on attendait ce chiffre un peu comme sur le marché actions attentivement. Et bon, il n'y a pas d'impact important. Donc, on va dire qu'on a quand même, on est passé outre. Maintenant, d'un point de vue technique, hein, comme on s'est eu hier, on continue sur cet élan de prise de bénéfices naturellement, qui était à prévoir depuis qu'on avait touché les résistances à 30 000 et 1950 sur l'Ethereum. Donc on avait perdu environ 3,5% et sur le Bitcoin et 3,2 depuis les résistances, et on s'attend à une poursuite du mouvement de notre côté jusqu'au comme dit hier 28 000 et 1850 qui sont nos zones on va dire de renforcement sur le Bitcoin et l'Ethereum. On se laisse porter par la tendance. Les chiffres d'aujourd'hui nous ont passé sur un mode risk off, et on reste à la recherche d'actifs risqués sur le marché, et c'est très bien pour le marché crypto. Et si je devais parler d'un dossier qui me semble intéressant en ce moment, j'aurais parlé de Solana, qui au niveau de la tendance est une des plus positives, où le volume est parmi ceux les plus rassurants. Et d'ailleurs, elle tient sur la semaine, c'est une des rares qui tient sur la semaine et qui reste positive. Et nous, on garde en tête des zones de polarité à 22 et 20 euros pour rentrer sur cette dynamique haussière qui semble la plus pertinente en ce moment, en tout cas. Voilà.
Merci beaucoup Valentin Nico de nous avoir accompagné cet après-midi, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct, et donc un Bitcoin qui consolide très légèrement, moins 1,5%, toujours au-delà des 29 000 dollars, à 29 192 dollars, comme tous les jours, avec nos invités. On va faire un tour d'horizon donc de l'actualité crypto, et donc aujourd'hui Owen Simonin et Alexandre Stachenko. On commence avec vous, Owen, et puis sur ce volte-face hein, de Binance US qui finalement veut sauver Voyager Digital.
Alors on est au 5e, 10e, 20e épisode de cette fameuse série. À l'origine, c'était FTX qui voulait sauver Voyager en les rachetant. Le problème, c'est qu'FTX du coup a fait défaut. Ensuite, Binance a proposé de racheter Voyager afin de pouvoir apporter de la liquidité et de couvrir ses différents utilisateurs. Mais à ce moment-là, c'est le régulateur américain qui a gelé cette vente et qui l'a mis en attente, tout simplement parce qu'ils avaient différents types de doutes, comme par exemple le fait que Voyager avait proposé sa propre crypto-monnaie et qu'elle aurait pu être, dans un certain point de vue, reconsidérée en étant une security. Ce qui fait que ça a tout simplement interrompu ce rachat en cours. Finalement, ce sont les tribunaux américains qui ont fini par dire que les régulateurs n'avaient pas le droit d'empêcher cette vente, et qui a fini par redonner une autorisation à Binance de racheter potentiellement Voyager. Et après l'étude du dossier et après de nombreuses consultations, c'est le CEO de Binance, CZ, qui annonce sur Twitter le 25 avril que l'environnement américain, le fait qu'il soit instable pour des raisons similaires avec la situation de Coinbase d'ailleurs, le fait que toute crypto-monnaie pourrait être reconsidérée comme un security, et qu'ils n'ont strictement aucune visibilité pour opérer aux États-Unis et qu'ils ont que des incertitudes sur l'avenir des crypto-monnaies dans ce pays, CZ a préféré ne pas poursuivre et a exercé son droit de se retirer de ce deal, et donc ne sauveront pas les utilisateurs de Voyager. L'entreprise Voyager a déjà annoncé qu'ils prendront donc rapidement des dispositions afin d'essayer d'apporter un maximum de valeur et de pouvoir partiellement, on va dire, dédommagé en apportant de la liquidité à leurs clients.
Owen, il reste quoi aujourd'hui de Voyager, sachant que ça fait faillite l'été dernier, en juillet dernier? Alexandre, pardon.
On va y arriver, c'est pas
grave. On va y arriver, c'est vendredi, veuillez m'excuser.
Ça fait longtemps que je suis pas venu, c'est pour ça, oui. Je ressemble à Owen, un peu moins de cheveux. Non, sur Coinbase, en fait, tout part de ce que vient de dire Owen, pour le coup, qui est ce problème de définition, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que les États-Unis se comportent à l'opposé de ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, on a on en parle assez régulièrement ici, empêcher un certain nombre d'entreprises de se développer, parce que le postulat européen, c'est qu'il faut d'abord un cadre, même si le truc est instable et que c'est difficile de le définir et que potentiellement on va faire une règle qui l'année prochaine sera obsolète, etc. Et ensuite, après tout ça, on va avoir MiCA, etc. Et peut-être éventuellement dans quelques années, on pourra développer une entreprise. Aux États-Unis, c'est littéralement l'inverse, c'est-à-dire que il n'y a aucune clarté réglementaire et donc dans un marché qui n'est pas du tout mature, c'était particulièrement propice pour des entreprises de se développer. Donc on a Coinbase qui sort, on a Kraken qui sort, on a plein d'entreprises qui se développent, qui doivent un peu improviser pour essayer d'être conformes à des règles qui n'existent pas. Donc Coinbase ont choisi d'aller en bourse, comme ça leurs documents sont publics, ils sont audités par la SEC, etc. Donc ça donne une forme de confiance à l'investisseur. Kraken, c'était une licence bancaire, une forme de licence bancaire au Wyoming. Mais en fait, on arrive un peu dans ce moment de transition où après FTX, bah c'est plus possible. Le marché, il a besoin d'avoir de la clarté réglementaire aux États-Unis. Et donc, il y a cette sorte de renversement où les Américains regardent l'Europe. Et d'ailleurs, c'est presque les seuls à dire que ce qui se passe en Europe est bien parce qu'ils sont matures. Donc, ils ont envie de se développer à l'international. Donc, ils ont besoin de ce contexte réglementaire qui évolue. Et donc, Coinbase a reçu cette fameuse Wells Notice, donc, qui est une forme d'avertissement de la SEC qui leur dit attention, bientôt, il va y avoir du grabuge potentiellement. Mais là où c'est problématique, et je suis assez d'accord avec Brian Armstrong et d'ailleurs avec Sisi sur ce sujet-là aussi, c'est que c'est très difficile parce que les régulateurs américains ne peuvent même pas définir ce qu'est une crypto. Et ils refusent de le faire. Donc, les Coinbase en particulier, ça fait très longtemps qu'ils envoient plein de messages, qu'ils essayent de collaborer avec les autorités, qu'ils essayent de dire est-ce que les securities laws s'appliquent ou pas ? Qu'est-ce que je dois faire pour être conforme à une loi qui n'existe pas ? Et la SEC reste muette. Et non seulement reste muette, mais elle attaque. Et donc, ce que dit Coinbase, c'est pas juste. C'est pas juste, ça fait des années que j'essaie d'être compliant, on me dit jamais quoi faire. Dès que je pose une question, les gens restent muets, et maintenant, on m'attaque. C'est pas juste. Et donc, ça crée cette forme de course à qui va gagner cette bataille juridique et réglementaire. Et je pense, dernier élément de contexte qui est pas négligeable, c'est que ça s'inscrit dans un contexte où il y a une dizaine de jours, ce fameux patron de la SEC, Gary Gensler, il a été auditionné par le Congrès américain, et on a tous pu se rendre compte qu'il n'y avait pas que des amis, qu'il a été particulièrement cuisiné sur, justement, le sujet, est-ce que c'est une security ? Est-ce que c'est une security ? Ça lui a été posé plusieurs fois la question. Il est incapable de répondre. Et donc, vous avez même un sénateur américain qui a proposé tout simplement de le faire partir. Il a proposé un amendement pour dire on change. Cette personne n'est pas capable d'assumer la protection des investisseurs américains. Donc, c'est un contexte très difficile aux États-Unis en ce moment.
Owen, c'est le feuilleton de la semaine, du mois, la SEC, le gendarme américain des marchés financiers, mais pas que.
Non, tout à fait. Cette semaine, il y a eu beaucoup de choses, notamment des gros mouvements sur les crypto-monnaies. Il y a eu quelques suivis qui ont été relativement intéressants. Alors, c'est toujours compliqué parce qu'on n'arrive pas à savoir qu'il y a des mouvements de panique. Est-ce qu'ils sont cause des baisses ? Ouais. Est-ce que c'est ce qui fait baisser les cours ? Et c'est très facile de se trouver des excuses quand on voit les cours baisser. On peut trouver une raison à s'y faire. En attendant, il faut comprendre que sur le réseau Bitcoin, il y a des très grosses adresses qu'on appelle les fameuses baleines, les fameuses whales, et qui détiennent de très grosses quantités de crypto-monnaies. La particularité du réseau Bitcoin, c'est que c'est la plus vieille des crypto-monnaies. Il existe donc des adresses qui détiennent beaucoup de crypto-monnaies et qui n'ont pas bougé depuis très longtemps. Principalement, les adresses les plus suivies sont des adresses qui sont connues pour être à l'issue de certains hacks, donc de certains bugs informatiques ou de certains vols. Et donc, naturellement, on va suivre ces Bitcoins dans la blockchain et dès qu'on va voir un potentiel mouvement, on va s'inquiéter car c'était des Bitcoins dormants qui potentiellement pourraient finir sur une place d'échange et qui pourraient finir à la vente. Et donc, les plus grosses adresses et les mouvements des fameuses whales inquiètent l'entièreté du réseau parce qu'on le sait, quand Bitcoin perd de la valeur, ça se répercute sur l'entièreté du marché. Contrairement à plein de crypto-monnaies qui ne vont pas impacter Bitcoin, Bitcoin lui est un métronome et il donne la mesure pour tout le monde. Et donc, naturellement, dans une période comme celle-ci, quand on voit une très grosse adresse qui bouge, et on a eu plusieurs gros mouvements qui vont de plusieurs milliers de Bitcoin parfois, naturellement, il y a eu tout de suite des suspicions, des gros mouvements qui ont été faits cette semaine. Pour l'instant, des mouvements qui se font entre adresses elles-mêmes, qui ne finissent pas sur une place d'échange et donc qui ne sont pas à la vente. Mais ce qu'il faut également comprendre, c'est que ces gros détenteurs de crypto-monnaies, quand ils décident de vendre, ils préfèrent trouver un deal OTC, donc un deal en direct avec un acheteur, plutôt que d'aller vendre sur une place de marché, vu qu'on parle de très gros volumes. En vendant, ils vont eux-mêmes faire baisser le cours du Bitcoin et ils vont eux-mêmes finalement cannibaliser leur vente et perdre une partie de ce qu'ils possèdent.
C'est un peu comme en bourse au final. Hein.
Totalement. Pour le coup, on en revient sur une dynamique très basique d'offre et de demande et de gros détenteurs qui lui-même peut apporter des problèmes de liquidité s'il décide de vendre massivement. Et en tout cas, comme la blockchain, elle est transparente, contrairement à beaucoup de choses qui se font en bourse, eh bien, quand il y a des gros déplacements et qu'on voit un détenteur de crypto-monnaie qui réalise un gros mouvement, naturellement, on s'inquiète.
Et après, on ne sait pas qui c'est. C'est ça le truc. Hein.
Pour le coup, tout le monde, il y a certains qui peuvent le savoir, c'est-à-dire que certaines adresses ont déjà donné une identité, certaines adresses sont publiques également, mais en l'occurrence, c'est pseudonyme et donc on ne sait pas qui se trouve derrière l'adresse.
Également, à rajouter une différence par rapport à la bourse que les gens oublient souvent, c'est que Bitcoin est un actif et il est échangé partout dans le monde sans plateforme de référence. Et donc, en fait, à ce titre-là, il ressemble beaucoup plus, on va repartir sur la question des définitions, mais à une commodity, à une marchandise, parce qu'en fait, on ne peut pas suspendre le cours de Bitcoin. Alors que, on l'a vu moult fois ces derniers mois, dès qu'une action va mal, dès qu'on prend moins 20, moins 30%, suspension de cotation, et donc ça empêche le cours de baisser d'autant plus.
Alors, on le rappelle, le Bitcoin qui consolide un petit peu, là, hein, moins 1,6%, 29 000 dollars. Alors, ça fait couler beaucoup d'encre, Alexandre, parfois les émissions carbone émise par le Bitcoin, par le minage. Mais alors vous, cette semaine, dans un article, bah vous nous dites en fait que le Bitcoin, ça pourrait être une solution pour le changement climatique.
Ça fait partie de la solution. Hein. Le changement climatique, c'est un problème extrêmement vaste et complexe. Donc il y a plein de vecteurs pour essayer de l'attaquer. Mais effectivement, moi je suis parti du constat assez important et assez inquiétant que Bitcoin, contre-intuitivement, ça fait partie de la solution et pourtant c'est présenté toute la journée par tout le monde comme faisant partie du problème. Et donc là où c'est embêtant, c'est que c'est assez activable assez rapidement pour des résultats qui peuvent être assez rapides aussi et qu'on est en train de se battre pour pouvoir déployer une solution au changement climatique. Alors dans cet article, bon après je vais pas, il fait 56 minutes de lecture selon Medium, donc je vais pas reprendre tout et je redirige les gens vers l'article, mais en gros je fais deux, trois arguments principaux. Le premier, c'est qu'il y a un argument qui est systémique, à savoir, d'un point de vue d'un système monétaire, rappeler aux gens en fait que la monnaie actuelle ne l'est pas du tout écologique, à la fois historiquement, parce que elle est basée, notamment tout ce qui est pétrodollar, est basé sur un accord armes pétrole entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite majoritairement. C'est pas que ça, mais je le synthétise ici. Et systémiquement surtout, des monnaies fiat, c'est-à-dire qu'on peut émettre autant qu'on veut parce qu'elles n'ont de valeur que ce que l'on croit qu'elles ont, elles représentent un vrai changement de paradigme dans l'histoire de la monnaie, puisqu'on passe d'une monnaie qui a pendant plusieurs millénaires représenté une énergie passée. Quand je passe une pépite d'or à quelqu'un, il a fallu que quelqu'un travaille pour la sortir de terre, cette pépite d'or. À l'inverse, quand je crée de la monnaie aujourd'hui, c'est une promesse d'énergie future. Et en fait, ce que ça change conceptuellement, c'est que ça va pouvoir favoriser la dette, l'inflation, la création de monnaie, etc. Et donc, statutairement, là je suis même pas dans le complotisme ou quoi, c'est que statutairement la mission des banques centrales est de viser l'inflation, parce que économiquement l'inflation favorise la consommation, donc c'est bon économiquement, mais quand on prend un prisme climatique, bah la consommation, non, c'est pas si bon que ça, donc il faut pas forcément la favoriser. Donc ça, c'est le prisme systémique sur lequel Bitcoin, à mon sens, est largement mieux. Et après, je fais tout un cas sur deux sujets en particulier qui sont l'équilibrage des réseaux électriques à cause de l'intermittence des ENR et la combustion de méthane, qui est un de nos problèmes majeurs sur le changement climatique. C'est un gaz qui est 80 fois plus nocif à court terme que le CO2. Et là-dessus, Bitcoin offre une solution tout de suite, maintenant, alors que l'Agence internationale de l'énergie, par exemple, nous dit que ça fait 15 ans qu'il ne se passe rien sur ce front-là, parce que ce n'est pas rentable, tout simplement.
Ça avait même été démontré, tu m'avais parlé de ce qui s'était passé au Texas, si je ne dis pas de bêtises, et il y avait déjà eu des solutions énergétiques grâce au taux d'effacement des mineurs, qui à tout moment, eux, peuvent arrêter de consommer l'électricité et rendre l'électricité aux citoyens et à ceux qui en ont besoin pendant de courtes périodes de temps, parce que le minage de crypto-monnaie, lui, peut se passer d'électricité sur de courtes périodes, ça ne va pas affecter son rendement sur l'entièreté de l'année, quoi.
Et d'ailleurs, un des plus grands défenseurs du minage de Bitcoin maintenant, c'est devenu celui qui était président du réseau électrique texan, parce que maintenant il fait plein de conférences pour dire justement en quoi ça lui permet d'équilibrer son réseau, de rajouter de la capacité dans les programmes d'effacement, de pouvoir être interrompu quand on veut, etc., etc. Et donc lui, c'est devenu un des plus grands défenseurs de Bitcoin, alors même qu'il a plutôt un background énergie, puisqu'il a été président du réseau de New York aussi, il a 30 ans d'expérience dans l'énergie, et d'un seul coup, il devient bitcoiner, parce qu'il s'aperçoit que non, c'est pas un problème, en réalité, c'est plutôt une solution.
Et donc cet article, on peut le retrouver notamment sur votre compte Twitter, si on veut le retrouver.
Mon compte Twitter redirige sur un article Medium, voilà. Mais oui, effectivement, je l'ai publié sur mes différents réseaux, pour ceux qui le souhaitent.
Voilà, donc sur le compte...
Armez-vous de patience, le temps long est important, et effectivement, l'article est long.
D'Alexandre Stachenko. Alexandre, alors en ce moment, il y a plein de résultats d'entreprise, on en parle tous les jours sur BFM Business, des résultats d'entreprise, notamment dans le secteur bancaire aux États-Unis, et il y a une publication qui était attendue, c'était First Republic Bank, on se souvient, il y a un peu plus d'un mois, tout le stress bancaire qu'il y avait par rapport à certaines banques régionales, et ils ont annoncé la fuite de 100 milliards de dépôts, ce qui à l'échelle de la banque est énorme, puisque c'est pas une très grosse banque, enfin, par rapport à d'autres géants américains. Oui, non, mais tout est relatif.
Ça reste la 12e plus grosse, quand même.
Oui, non, mais c'est pas JP Morgan.
Mais c'est pas JP Morgan, oui.
Voilà, par rapport à cela. Bon, en tout cas, le cours de bourse s'effondre, on est quasiment à 90-95% de baisse depuis le début de l'année, parce que pas mal de clients clients sont partis de cette banque.
Ouais. Si on veut être un peu taquin d'ailleurs, il faudrait maintenant recommander attention, ne mettez pas dans les banques plus que vous pouvez permettre de perdre. Mais bon, je ferme la parenthèse. Non, il faut être assez prudent sur la causalité entre le prix du Bitcoin et ce genre d'événement à court terme, parce que il s'en est passé un certain nombre depuis ce début d'année et il faut toujours prendre un peu de recul. Moi, ce qui m'intéresse justement, si on fait ce pas de côté, c'est de regarder le temps long. Je regarde que on a eu une faillite qui a été FTX l'an dernier. On a eu 6 mois de pataquès, de il faut tout réguler, la crypto c'est nul, c'est le secteur qui est pollué, votre secteur est sale, pour reprendre certains propos connus en France. On a eu depuis le début de l'année faillite de SVB, Signature, on a eu le Crédit Suisse, on a First Republic peut-être, éventuellement, on verra. Dans le tas, il y a quand même des banques majeures, il y a des banques systémiques, Crédit Suisse est une banque systémique, et pourtant, on continue quand même de nous dire, rassurez-vous, tout va bien, ce n'est une brebis galeuse entre guillemets. Et c'est bizarre ce discours qu'on n'a pas réussi à avoir en tout cas sur Bitcoin. Maintenant sur le principe, on a en face Bitcoin qui tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui n'a pas fait défaut sur cette chose-là, et on a une corrélation avec notamment l'or qui est en train de progresser. Alors attention, encore une fois, je fais pas de conclusion définitive, mais là où ça pouvait être 0,1, 0,2 il y a encore quelques mois, aujourd'hui c'est 0,6. Donc on est déjà beaucoup plus proche. Est-ce que c'est un renversement de tendance? Ce serait très intéressant. Reste à le confirmer. Et une dernière chose qui n'a pas grand-chose à voir avec Bitcoin, c'est que en fait tous ces problèmes effectivement de retrait de liquidité sont des problèmes très important à l'ère du numérique, parce que en réalité le bank run ou le bank walk, s'il est plus lent, il est sous nos yeux, mais comme il est numérique, il n'y a pas de queue, il y a pas au guichet, on voit rien et tout le monde peut retirer son argent. Retirer son argent avec une condition, c'est que si vous restez dans le système bancaire traditionnel, vous pouvez le retirer que dans un autre institut bancaire. Et donc, ça crée ce genre de conflit où on a vu Janet Yellen aux États-Unis dire à demi-mot oui, on va protéger toutes les banques qui sont systémiques. Sous-entendu, barrez-vous des banques qui sont petites, parce qu'en fait, on ne les protégera pas. Et donc, ça crée cette distinction dans le marché où il y avait un sénateur qui lui disait, mais en fait, du coup, vous venez de détruire la concurrence. On va tout canaliser sur 5 banques et puis on ne pourra plus rien faire, car ce seront 5 banques qu'on ne pourra pas faire faillite. Et donc ça, c'est très dommage d'un point de vue du marché.
Owen, on rappelle cette situation, c'était au mois de mars. Hein, ça paraît un tout peu loin maintenant. C'était il y a un gros mois, mais maintenant, on commence à voir certaines sombres
retomber. Croyez-moi, c'était hier. Oui. USDC et son DPEG, c'était hier. Non, le truc qui est incroyable, c'est de se dire, est-ce qu'on peut tout sauver systématiquement? Est-ce qu'on pourrait, parce que c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on va sauver les banques systémiques? Parce que par définition, s'il y en a une qui tombe, mathématiquement, on ne peut pas. Mais il y a un moment où la réalité, enfin, je pense que l'approche cartésienne finit par rattraper tout système à un moment ou à un autre. Hein, c'est ce qui fait qu'il y a des moments où il y a des révolutions et qu'il y a des changements d'ordre et de fonctionnement. La vraie question, c'est est-ce qu'on trouvera toujours un UBS derrière un Crédit Suisse, en une ligne? Et ça, qui sera l'UBS du BS?
Après, il y a les États, hein, on l'a bien vu, les banques centrales. Si
mais l'État, c'est vous et moi.
Oui, non, mais après, il y a les banques centrales.
C'est vous et moi aussi.
Oui,
d'une certaine façon.
Non, mais sauf qu'ils ont de l'argent illimité et on se bat pas contre une banque centrale.
Bien sûr, illimité, en 2008, ça a quand même fini par affecter finalement le portefeuille du particulier d'une manière ou d'une autre.
En fait, c'est une question de projection dans le futur. De toute façon, personne ne peut avoir raison, puisque par définition, on est en train de regarder dans le futur. Mais d'un point de vue de la théorie économique, à un moment donné, quelqu'un va payer. On ne sait pas encore qui c'est, mais créer de l'argent magique, comme diraient certains, ça tient un temps. Mais derrière, à un moment donné, quelqu'un paye, soit par l'inflation, tout le monde, et on a une destruction de la monnaie, du capital, soit il faut socialiser des pertes, soit il y a quelqu'un qui va la prendre pour... Mais il y a quelqu'un qui va payer à un moment donné. Et moi, je trouve que le système actuel ressemble de plus en plus à une grande fuite en avant. Et personne ne veut assumer la responsabilité du moment où, effectivement, ça va s'effondrer.
Ah bah, c'est des sujets politiques également.
Des sujets très politiques.
Tout à fait.
Et
tout
puis internationaux, dans le sens où on l'a bien vu que les banques centrales, il faut que ça soit coordonné. C'est-à-dire que...
Autant faire se peut.
Voilà.
Juste pour revenir sur un point, c'est une des raisons pour lesquelles les banques centrales sont assez hostiles aux cryptos, et légitimement, c'est qu'elles parlent tout le temps du risque de stabilité financière. Pourquoi? Parce que, précisément, les cryptos sont la seule techno qui permettent la propriété numérique, donc de se posséder soi-même sur un portefeuille. Donc, en fait, le risque de stabilité financière dans un système réglementé avec des barrières à l'entrée et où chaque porte d'entrée est contrôlée par une banque centrale, il n'y a pas de risque de bank run, entre guillemets, puisque à chaque moment où la liquidité peut s'en aller, en fait, c'est un jeu de vase communicant. Elle s'en va vers une autre banque. Dans le cas des cryptos, là où c'est un risque pour la stabilité financière, c'est que toute liquidité qui s'en va, elle s'en va elle va sur un portefeuille personnel qui n'est plus le système financier. Et donc c'est pour ça aussi qu'elle le voit comme un risque, c'est que le château de cartes se fait taper dessus par cette porte de sortie qu'offrent les cryptos. Pardon, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, non, c'est exactement ça, et il n'y a pas de réponse parfaite encore. Je pense que c'est également un propre de l'économie, de la finance, et qu'il y a eu plein de choses qui ont été incrémentées. Il y a des gens qui peuvent toujours trouver une critique sur la technologie pourrait avoir une limite, même si on n'est pas capable de le définir maintenant, et la technologie qui peut trouver des excuses en disant oui, mais le modèle actuel a déjà ses limites que l'on connaît et qu'on est capable de définir. La question, c'est quelle sera la meilleure des moins bonnes solutions, ou au contraire, quelle sera la solution qui permettra d'avancer durablement, et ça, c'est une question ouverte.
Bah, chacun fera son avis. Merci beaucoup Owen Simona de nous avoir accompagné cet après-midi, cofondateur de la chaîne YouTube Asher, et puis Alexandre Stachenko également qui nous accompagnait.
On y arrive.
On vous y attendait. Hein.
Merci.
C'est vendredi, on mettra ça sur le dos de la fin de la semaine, cofondateur de Blockchain Partner. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux de nous avoir accompagnés.